Ça va mieux, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux, l'émission où l'on commente l'actualité du monde. Pour commenter cette actualité, je suis aujourd'hui en compagnie de bien toujours les mêmes finalement, les meilleurs sont là, Jean-François Mignard de la Ligue des droits de l'homme et d'autres, bien d'autres choses d'ailleurs, mais on ne va pas le faire rougir, et puis Pierre Larouille, économiste, essayiste et aussi d'autres lettres de noblesse que je vais vous épargner. Alors aujourd'hui, trois sujets, nous allons parler des agriculteurs qui sont en train de bloquer la ville, je crois qu'ils y sont toujours d'ailleurs. Nous parlerons des Kurdes et puis nous parlerons des fonctionnaires et de ce que M. Macron peut leur réserver, si on arrive à le déterminer. Alors commençons par ces agriculteurs qui, nous le savons, ont une vie difficile, des conditions de travail de plus en plus complexes. Dans un monde où argent, finance et rendement sont devenus les rois, il faut bien reconnaître que leur position devient intenable et que les petites exploitations ont de plus en plus de mal à survivre. Bon nombre d'agriculteurs travaillent à perte, leur vie est épuisante et douloureuse, les suicides sont fréquents, industrialisation des méthodes, remise en cause de leurs méthodes de travail, chasse justifiée malgré tout, mais chasse quand même aux pesticides qu'ils utilisent parfois en abondance, accords internationaux tels le TAFTA, fermes géantes, aides européennes supprimées ou diminuées, et une grande distribution qui a une fâcheuse tendance à les prendre pour des imbéciles, voire à les exploiter. Le tableau est humainement et économiquement soucieux. Le nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, ancien hiérarque socialiste, dont le seul mérite est d'avoir rejoint assez tôt le candidat Macron, ce qui fait qu'on voit quand même qu'il sait prendre le vent. Premier ministre de l'Agriculture, c'est déjà un bon début. Donc un garçon qui peine à convaincre aujourd'hui. Les récentes assises de l'alimentation, vaste messe du verbe où l'on a surtout entendu les grands industriels du secteur, n'ont rien apporté de concret au monde agricole. Un monde à l'évidence en crise, un monde qui pourtant est essentiel aux Français à leur alimentation, une alimentation qui mériterait un peu plus d'attention quant à sa qualité et surtout à la composition des produits que l'on nous fourgue dans des emballages censés nous renseigner sur leur contenu. Des emballages comportant des notices illisibles, indécodables, sauf pour quelques initiés qui ont du temps. Mais on ne peut pas faire ses courses avec un dictionnaire, une application de smartphone spécifique et une agrégation de biologie en poche. Bref, on nous enfume, on nous prend un peu pour des demeurés. Alors vous allez me dire qui ? Eh bien, bien sûr, les industriels du secteur alimentaire, immenses sociétés capitalistes, où profits et dividendes priment sur la qualité et la transparence. Et d'ailleurs, nous en avons vu récemment un triste exemple dans le domaine du lait, et bien aidés en cela par leurs très efficaces lobbyistes qui agissent à Bruxelles avec des méthodes critiquables, allons-nous dire, assorties de facilités administratives octroyées par l'institution et d'une écoute complice de celle-ci, de ses fonctionnaires et de ses élus. À tout cela, bien sûr, s'ajoute la grande distribution qui répond aux mêmes impératifs et qualificatifs si suscités que les industriels. Nous voilà, nous, consommateurs de base, bien mal embarqués dans cette filière où nous ne comptons pour rien. Achète, bouffe et tais-toi, tel est le credo des acteurs industriels de la filière. Dans cette affaire, il y a donc deux groupes de victimes situés aux deux extrémités de la chaîne, les producteurs et les consommateurs. Alors expliquez-moi pourquoi les premiers, les agriculteurs, prennent en otage les seconds, c'est-à-dire nous, les empêchent de circuler, bloquent leur ville, leur transport scolaire, empêchent les gens de rentrer chez eux, les contraignent à d'énormes et onéreux détours sur des routes secondaires qui se révèlent vite dangereuses, surchargées qu'elles sont par un tel trafic et des conducteurs éreintés et énervés. Une fois de plus, les syndicats agricoles, dont bien sûr la FNSEA, qui souvent soutient les agriculteurs de base comme la corde soutient le pendu, ont mis en place une stratégie d'un autre âge et qui n'a comme effet que de leur aliéner ceux qui auraient tout intérêt à les soutenir, des méthodes imbéciles qui leur font perdre le capital de sympathie qu'ils avaient auprès de la population. Et vous avez noté également que, bien évidemment, les forces de l'ordre sont très discrètes, avec des pudeurs de jeunes filles pour intervenir et dégager l'espace public. Nous avons de bons préfets qui exécutent à la lettre les ordres de Paris. On évite ainsi des scènes de violence qui pourraient réchauffer la sympathie des gens avec un grand G, hein, comme dirait un certain, envers les manifestants. Et puis on économise les forces du personnel policier, beaucoup trop sollicité ces derniers temps, et plus à l'aise dans le gazage ordinaire du migrant que d'agriculteurs qui pourraient, eux, se rebiffer. Sic transit gloria Macronus. Donc sur cette question que je viens d'introduire largement, qui veut démarrer? Allez, regardez, vous, c'est radiophonique, là, on est en grand silence dans le studio.
Non, mais on ne se regarde pas, on se micro-garde. je ne sais pas, il y a un mot qui me vient, après cette brillante introduction qui dit tout, c'est foutoir. En fait, les questions qui sont posées dans cette introduction et par le monde de l'agriculture, c'est en fait le foutoir complet dans lequel nous sommes de manière générale sur les nouveaux usages dans la société. C'est-à-dire qu'on est tous en contradiction avec tout, les industriels, les consommateurs, l'action publique. Chaque fois qu'on traite un problème de manière comme ça, on dit l'agriculture, on s'aperçoit que ça concerne, les industriels, et puis l'industrie chimique, et puis la recherche, et puis la mondialisation. Bref, en fait, on est complètement désorienté, comme disent les pilotes d'avions supersoniques. On souffre de désorientation spatiale. Je crois qu'en fait, nous sommes plus globalement confrontés, et l'agriculture nous ramène à ça, au problème du progrès. C'est que nous avons un tout petit souci avec lui aujourd'hui, avec un progrès qui rime avec vitesse, avec mondialisation, avec perte de maîtrise. Et je vais donner un exemple de ça sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. On pourrait se dire comme ça que c'est l'intelligence artificielle qui remplit aujourd'hui les colonnes des médias et très loin du monde de l'agriculture, ou comme vous le savez, très très près. Et on est bien là dans la contradiction d'un usage potentiel et formidable, notamment d'un point de vue écologique, de l'intelligence artificielle pour le bienfait à la fois des consommateurs et de l'agriculture de manière générale. Et on voit bien qu'elle est plutôt utilisée dans un sens de la performance économique pure et complètement coupée de toute réalité d'usage. Bref, nous sommes questionnés par une période extrêmement trouble on prend l'agriculture, donc on pourra en prendre d'autres, et qui concerne en fait un nouveau modèle productif qui sera forcément écologique, qui essaiera, à mon sens, de réconcilier un tant soit peu les citoyens que nous sommes, les industriels dont on a besoin, et l'ensemble de l'intérêt général, et pour retrouver les lumières d'un progrès un peu plus partagé qu'il ne l'est aujourd'hui, et dans lequel on se retrouve un petit peu en confiance. Voilà, c'était un peu loin peut-être du propos, mais sincèrement, quand je suis bloqué, comme vous l'autre jour, rue de Metz, par les agriculteurs, mais que le lendemain, je suis bloqué par 2000 motards, dont le seul objet est quand même de faire beaucoup de bruit et beaucoup de fumée dans la rue, je me dis que je ne suis pas totalement sûr que la société aille très bien.
Jean-François Mignard.
Oui, alors, un peu joue au mot comme ça. Moi, ce n'est pas foutoir qui me vient à l'esprit à propos des événements et des agriculteurs. C'est irresponsabilité, moi, qui me vient. On est sur plusieurs aspects par rapport au long et brillant développement de tout à l'heure. Et sur deux objets, oui, il faut toujours, flatter le chroniqueur, c'est une vieille tradition. Pour démarrer par la fin, on est en train de payer une tradition d'irresponsabilité politique à l'égard. À l'égard des agriculteurs, ouais, et de leurs représentants, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est assez insupportable d'imaginer que nous avons dans notre pays deux poids et deux mesures, et puis quand j'ai dit deux poids et deux mesures, c'est pas de la rigolade, entre la manière dont on traite certaines catégories de population et dont on peut en traiter d'autres. Si vous êtes à Air France et si vous déchirez la chemise d'un cadre, et si vous êtes un agriculteur et si vous détruisez le bien public, vous mettez en danger les uns et les autres, le traitement sera pas le même. Ça m'agace un peu au regard de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, il y a une responsabilité politique, et encore une fois, les responsables politiques vont se coucher. Et laisser imaginer à toute une catégorie de la population qu'effectivement, c'est la seule victime aujourd'hui des réalités sociales et que, d'une certaine manière, elle peut tout se permettre. Alors, moi, je n'en appelle pas à plus de répression, ce ne serait pas dans ma nature, mes définitions ni mes principes. J'en appelle des principes d'égalité, entre guillemets, républicaine. Après, il me semble que ce qu'on paie, c'est une longue irresponsabilité politique. Alors, bon, des décideurs au plan de l'agriculture, mais des agriculteurs eux-mêmes. Hein, c'est-à-dire que... avec un arrière-fond qui est un arrière-fond qu'on avait évoqué à la dernière réunion, hein, des ruraux contre les urbains, hein, mais il y a ça aussi qui se joue dans cette affaire-là, hein, les automobilistes de la ville contre les agriculteurs, truc et tout ça. Là, nous avons des gens qui sont arrivés effectivement au bout d'une certaine logique, qui sont allés de manière complètement irresponsable. On leur a dit de planter ceci, ils ont planté ceci. On leur a dit de planter cela, ils ont planté cela. Des gens se sont largement engraissés sur leur dos. Et je ne sais pas, mais alors, c'est toujours compliqué, hein, moi, c'est de faire la catégorie des agriculteurs, parce que moi, j'en connais qui ne sont pas du tout là-dedans. Hein, je fréquente au quotidien des gens, donc je suis à peu près sûr aujourd'hui qu'ils ne bloquent pas les rocades. Ils sont en train de faire du circuit court, ils sont en train de relancer des choses ou des trucs comme ça. Voilà. Et les agriculteurs sont en train, là, aujourd'hui, d'être dans une impasse qui est le bout de leur irresponsabilité, qui est qu'effectivement, on n'a pas l'impression que le monde paysan, agricole, se soit réellement politiquement pris en main pour défendre ses intérêts et que c'est plutôt effectivement, alors, je ne vais pas sortir, mais la grille d'analyse qui pourtant est vraie des grands céréaliers et des grands groupes qui sont effectivement en train d'envoyer au feu, effectivement, la chair à canon syndicale et politique des agriculteurs qui vont s'en sortir. Je ne sais trop rien, parce qu'en plus, concrètement, sur le fond, c'est la fameuse histoire des zones agricoles qu'il s'agirait de défendre. C'est-à-dire, c'est l'incapacité aujourd'hui de l'agriculture à vivre sans les subventions dans une logique qui est une logique qui est de fuite en avant, voilà, et dans laquelle, moi, je partage ce que dit Pierre, on est aussi en partie responsable au regard de nos pratiques de consommation, des choses comme ça. Mais il y a quand même tout ça. Et c'est sporadique, cette affaire-là, hein, c'est-à-dire, ce serait la première fois, je veux dire, c'est, là, on en a une louche, ça va se calmer, ça va repartir dans quelques mois, hein.
Alors c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas su s'organiser. N'oubliez pas qu'il y a un suicide d'agriculteurs tous les deux jours quand même. Hein.
Oui.
Donc on est dans une situation extrêmement dramatique.
Alors la police aussi, c'est pareil.
Je connais quelques enseignants qui sont en dépression. Moi, je suicide moins chez les enseignants que chez les agriculteurs.
Chez les policiers,
ils prennent plus dans la dépression.
Voilà, voilà. Oui. Mais ça justifie rien du tout, d'ailleurs.
Ça justifierait. On ne peut pas faire ce type d'amalgame, ni de rapprochement.
Ni de comparer l'état de cadavre.
Cette discussion, simplement pour sortir du suicide, je sors un peu du sujet, mais je dois dire, ce matin, j'étais très surpris en apprenant qu'on allait restaurer les consignes pour les bouteilles. Alors, donc, je trouve ça formidable, parce que si j'ai bien compris, si on restaure la consigne, c'est qu'on va augmenter un tout petit peu le prix de vente, puisqu'on se fait rembourser ensuite.
Oui.
Donc, ça veut dire que tous les gens qui ont une pratique un petit peu saine aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont pris l'habitude de trier, vont se retrouver en train d'avoir à choisir entre abandonner toute l'organisation qu'ils avaient pris ou payer plus cher que tout le monde les produits qu'ils achètent. Alors, c'est une anecdote, mais j'ai trouvé cette mesure un peu technocratique comme ça, et je me demande si elle est très pratique, parce que ça veut dire que tout ce qu'on a installé pour faire du tri fonctionne plus. Alors demain, les gens qui se disent bon, si on a arrêté sur les bouteilles, on va aussi arrêter sur les papiers. Enfin, bref, je comprends rien.
Enfin, il y a quand même dans cette filière agricole des gens qui tirent un peu les ficelles, on l'a dit. On veut industrialiser aujourd'hui à outrance notre agriculture. Je ne pense pas que les Français le veuillent. Je ne les ai pas consultés, on n'a pas fait de consultation exhaustive, mais ce n'est pas quand même ce que l'on entend. On a la FNSEA qui soutient, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours les grands producteurs. Et à côté, on a l'impression que ces petits producteurs sont laissés seuls face au capitalisme industriel agricole. Et quand on voit combien on leur achète le lait, ils ne couvrent même pas, par exemple, sur un litre de lait, leur coût de production. Alors, s'ils ne couvrent pas leur coût de production, ils n'ont pas commencé à vivre, eux et leur famille. Qu'est-ce qu'on fait ?
Sachant que nous sommes assis sur une quantité industrielle de lait en poudre à l'échelle européenne.
Mais là, quand même, on est en train de parler d'un truc là qui... c'est quoi le marché ? Parce que là, on est en train de faire un amalgame en disant les Français, leur agriculture, leur consommation, et les agriculteurs, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a une bonne partie du secteur agricole qui ne vit que de l'export, une partie qui ne vit que des subventions, et une partie qui a réellement un rapport direct et réel avec le consommateur français. Donc, c'est, là encore, ça devient... C'est un agrégat un peu complexe à la chose dont nous parlons, qui mélange effectivement des dimensions, des thématiques, des types de marchés qui n'ont rien à voir. Souvenez-vous, la grande crise de la pêche, c'était quoi, il y a 10 ans à peu près, hein ? Vous vous souvenez, c'était assez curieux que, par exemple, les Britanniques, qui ont une vision beaucoup plus de pêche de proximité, de marché de proximité, ont très peu été touchés. Et qu'aux endroits où il y avait une vraie dynamique industrielle de la pêche, on a été confrontés à des problèmes très lourds. Alors, quels sont les arbitrages entre ces choses-là ? Je pense qu'hélas, on ne peut pas le traiter de manière simple, parce qu'il faudrait le traiter par type de marché, par type d'exploitation. Est-ce qu'on est confronté à la concurrence internationale ou pas ? Est-ce qu'il y a un marché local potentiel, comme le fait l'économie circulaire, ou pas ? Bref, je crois qu'on se facilite un peu la tâche comme ça, en prenant des mots qui agrègent des choses qui me semblent très différentes.
Alors, comment traiter le problème ? Parce que personne n'a traité ce problème jusque-là.
Une réaction, quand même. Quand on parle, depuis que je suis né et que je m'intéresse un peu aux affaires de ce monde et de notre collectivité, j'ai toujours entendu dire que l'agriculture était quelque chose de très complexe. Et que donc, à partir de là, on pouvait avoir difficilement des politiques publiques générales qui pilotent ce genre de trucs. Quand même, il y a un truc qui est un peu paradoxal dans cette affaire-là, contradictoire, hein, c'est qu'on a la cohabitation de deux registres qui sont des registres fondamentalement contradictoires, hein, qui sont d'une part la revendication au marché et à la liberté, et de notre côté, la revendication à avoir des subventions qui sont des subventions des États. Il me semble, alors je vais être un peu caricatural, mais à un moment donné, il y a un choix qui est un choix de logique à faire. Là, si on est dans une Europe dans laquelle doit régner une concurrence libre et non faussée, faut arrêter de subventionner. Ou alors, on est dans une logique dans laquelle on va réguler, pour le coup, le marché. Mais un certain nombre de nos amis agriculteurs ont un discours et des pratiques qui me laissent... Alors, je dis un certain nombre pour bien dire que j'ai conscience que c'est pas... comme ça, homogène, bien entendu, encore une fois, parce que moi, j'ai des contacts avec des gens qui ne se retrouvent pas dans ce genre de truc-là. Mais quand même, c'est un peu, je veux dire, revendiquer d'un côté une liberté illusoire, d'ailleurs, hein, parce que imposée par, ça a été évoqué tout à l'heure, et de l'autre côté, revendiquer de la subvention, je trouve pas ça extrêmement cohérent.
Mais il n'est pas certain qu'ils revendiquent la subvention. Beaucoup d'agriculteurs aimeraient se priver ou se passer des subventions pour autant que on leur achète la production au prix. Donc on en revient au marché.
Oui, mais chaque, le problème, en fait, je rentre un peu dans les détails. Le problème, il est celui de l'action publique et de la macroéconomie. On passe notre temps à prendre des gros marteaux pour tuer des petits moustiques. Prenez l'exemple du CICE. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut relancer quelque chose et qu'on veut aider, sous prétexte qu'on veut aider des petites entreprises PME innovantes, à la fin, on finit par financer Carrefour, ça ne sert pas à grand-chose apparemment, Leclerc ou autre. Donc c'est la contradiction que nous avons, c'est que nous avons des modèles d'intervention de l'action publique qui ne sont plus adaptés à une sophistication que nous devons avoir et qui était encore complexifiée, évidemment par l'internationalisation de l'ensemble des marchés. En fait, on se pose une deuxième question aussi, c'est que nous avons vécu pendant très longtemps, ceux qui étaient en fac de droit ou de sciences économiques ont dû apprendre ça, où tous les modèles de croissance étaient extrêmement simples. On avait des systèmes de production et on avait des tri des systèmes de production, grosso modo, par le taux d'intérêt et le taux de rentabilité. Aujourd'hui, on commence à comprendre des choses qui ont quand même été dites il y a plus de presque un siècle, c'est que tout système productif produit aussi des externalités. Les externalités, c'est la pollution, mais c'est la confiance. C'est plein de choses comme ça. C'est le bien-être, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand je vous disais tout à l'heure, on revient finalement à l'idée du foutoir, c'est que nous allons être obligés, et ce n'est pas spécifiquement français, de retrouver un tout petit peu de cohérence dans un modèle productif qui peut-être ne peut plus vivre sur un seul pied, qui sans doute va avoir besoin de faire un peu de la macroéconomie et du global, et peut-être du beaucoup plus proche. Demain, on peut se poser la question, est-ce que les entreprises qui ne perdent pas d'argent doivent être fermées ? Vous avez vu que ça choque beaucoup de gens. Pourtant, c'est la logique du système aujourd'hui, c'est qu'on cherche tout le temps à uniformiser les mesures que l'on prend. Et je crois simplement que ça ne marche plus.
Jean-François Mignard.
Non, je dis plutôt. C'est-à-dire que sur la question du rapport avec la proximité. Et alors, moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est la proximité. Dans cette question d'articuler à du global et du local, hein, c'est la question qui est la question de la nature de la décision et du type de démocratie auquel ça renvoie. Parce que, c'est, encore une fois, c'est ces questions-là sur lesquelles, au moins, je peux dire des trucs, parce que sur l'économie, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Hein, et c'est pour ça que je parlais d'irresponsabilité politique. Je pense qu'il y a une question sur... qu'il faudrait aussi renvoyer du côté des agriculteurs sur leur capacité à s'organiser, d'une part, en tant qu'acteur économique, et d'autre part, à dialoguer avec, effectivement, les consommateurs, y compris en enjambant un certain nombre d'intermédiaires, que je parle aujourd'hui des circuits courts. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, c'est évident que « small is beautiful », c'est pas une solution, et que ça, mais comment on va articuler ce genre de choses-là, et comment on va faire que les gens là-dedans... c'est pour ça que la revendication d'une part à la liberté et d'autre part effectivement à la subvention me paraît pas cohérente. Je pense qu'il y a une co-construction à faire avec un certain nombre d'acteurs en articulant effectivement des politiques macroéconomiques et des dimensions locales. Que l'enjeu il est là et que ce qu'il y a de terrible, ça a été évoqué dans cette brillante introduction.
Il veut une augmentation.
Les jetons de présence vont augmenter. Ils sont en train, un certain nombre d'agriculteurs sont en train de se foutre à dos des gens qui potentiellement sont leurs alliés. Hein, c'est-à-dire que leur ennemi, il n'est pas effectivement. Ils peuvent très bien dire, on n'a pas d'autres moyens. Je pense qu'ils sont condamnés à l'intelligence, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je pense qu'ils ont un peu de marge de progression politique à avoir de ce point de vue-là.
Il y a longtemps que les viticulteurs catalans que l'on a connus très agités, je l'ai vécu avec eux, ont arrêté ce type d'action. C'est terminé, ce type d'action violente, ce type de blocage. Moi, je suis très surpris qu'on en soit encore à des méthodes aussi basiques, en plus pour un problème qui touche Bruxelles. Et là-dessus...
Et pourtant, le vin est devenu meilleur.
Et le vin est excellent aujourd'hui.
Il est pas mal. Oui.
Il est pas mal.
Mais
hein.
on perçoit bien... Moi, je me suis intéressé quand même un petit peu. Par exemple, il y a des gens qui sont, en ce moment, un peu emmerdés par rapport à cette affaire-là. La Confédération paysanne, elle est pas très à l'aise dans cette affaire-là, parce que autant elle est partie prenante, elle, de ce qui se passe, autant elle, effectivement, elle se... Alors, moi, j'ai pas de blanc-seing à donner à la Confédération paysanne, mais je trouve que c'est, par exemple, des gens qui réfléchissent à ces questions-là, alors que la FNSEA, je suis pas sûr qu'au-delà du lobbying et des discours de pression, elle réfléchisse à ce genre de trucs.
Pression musclée, comme on a pu le voir sur Sylvain.
Oui, alors bon, moi, par ailleurs, je veux dire, le problème de la FNSEA, la FD, c'est qu'effectivement, ils ont tendance aussi à flatter ce qu'il peut y avoir de pire dans leur propre clientèle et à mettre en avant, effectivement, ce qu'il y a de plus... contestable. Hein. Et on le voit d'ailleurs. Hein. On le voit. C'est la course à l'échalote, de pratiques qui sont des pratiques effectivement tout à fait déplorables. Voilà. Mais on voit bien que, y compris dans ce monde-là, ça, des gens ne sont pas trop à l'aise. Je pense effectivement que politiquement, c'est une connerie qu'ils sont en train de faire. Mais
pour poursuivre la piste que Mignard traite toujours avec beaucoup de bon sens, en fait, les failles. Les failles de l'organisation, elles sont co-construites aussi avec le mode de production agricole qui était celui depuis... En fait, à partir du moment où on est sur la macroéconomie et du rapport de force pour obtenir des subventions à Bruxelles ou des grandes décisions de l'État, eh bien, on est dans une logique d'une organisation syndicale qui joue du rapport de force. Et donc, qui s'appuie sur la puissance. Et effectivement, les gens qui bloquent sont en général des gens qui ont des gros tracteurs aussi. Il n'y a pas beaucoup de petits. C'est pour ça que je dis, c'est très difficile, quand on est au bout d'un système, un peu partout. Hein. Donc, c'est, j'en reviens à ça, c'est que je pense qu'on a du mal à s'ébattre dans un mode d'organisation qui me paraît totalement obsolète.
Alors, on parle de macroéconomie, mais on peut parler de macroéconomie aussi. Qu'est-ce qu'ils font là sur, le ministre, on ne l'entend pas. Il paraît qu'il négocie, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec qui, mais rien ne se passe. Le blocage est toujours là, ces gens sont toujours... Moi, j'ai mis 3 heures pour rejoindre le Lot vendredi soir, pardon. Tout était absolument bloqué. J'ai vu un escadron de gardes mobiles bien au chaud dans les camions. Et puis, il y avait des milliers de gens sur l'autoroute avec des gosses, avec des personnes âgées, des malades, des gens qui étaient peut-être pressés ou qui avaient du boulot. Et alors, on fait quoi, là ?
Mais en fait, pourquoi ils se battent ? Enfin, c'est quoi le sujet ? Et ce sujet, quand il est vu du côté du gouvernement, est-ce qu'on peut l'isoler ? Est-ce qu'il est relié à autre chose ? C'est encore une fois, on rentre dans une technicité là, d'une lutte. Si quelqu'un vient et dit « j'aimerais 5% d'augmentation des salaires », on voit à peu près à quoi ça correspond. Là, on est quand même dans des mesures de terre qui seraient avec tel statut ou avec tel autre. Mais est-ce qu'on a la liberté de décider ou pas ? Qu'est-ce que ça a comme impact ? Sincèrement, moi, comme je ne suis pas dans ce monde-là, je suis totalement incapable d'avoir une vision à peu près claire. Alors, on peut toujours se dire, moi, c'est toujours ce qui me choque, est-ce que réellement l'équipe de Macron, M. Travers ou Attorge, peu importe, est vraiment un pur pervers et ne veut pas répondre à ces gens ? Ou est-ce qu'il a des raisons qui l'empêchent de le faire ? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que dans cette transparence médiatique des réseaux sociaux et tout ça, moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi ça bloquait, finalement.
Non, ce n'est pas vraiment, on arrive...
Moi, le peu que j'ai compris, quand même, c'est qu'il y a une non-décision qui a été prise par le gouvernement précédent concernant cette cartographie des zones.
Qui était costumier du fait, comme dirait Santonio.
Voilà, c'est ça, comme disait Béru. Et que, enfin, à la surprise générale, il a décidé de ne pas décider. Et que l'Europe, elle, a tranché. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement se retrouve avec, d'un côté, quelque chose auquel... Enfin, auquel il n'a pas participé. Macron, notre président de la République n'était pas complètement irresponsable à les gouvernements précédents. Voilà. Mais, et d'un autre côté, effectivement, une base électorale, parce que, attention, quand même, ça vote, ces gens-là, et ça secoue le cocotier de la réalité autour d'eux. Voilà. Ils sont pris dans les choses, un autre truc. Après, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Je pense que, autant ils ont des idées précises, certainement, sur ce qu'ils veulent faire des fonctionnaires, et on y viendra, autant, concernant le secteur agricole, s'ils sont libéraux, il faut qu'ils laissent faire. Hein.
Et au cas particulier, la décision paraît quand même appartenir à Bruxelles plus qu'au gouvernement français, qui peut effectivement se faire le porte-voix, mais ça ne va pas guère aller au-delà.
Oui, c'est comme d'habitude. Et donc, ça finira par une attaque contre l'Europe qui... Voilà. Parce qu'on oublie les suivants. C'est encore une fois, c'est chaque fois qu'on isole un sujet, on a du mal, un, à comprendre de quoi on parle, et surtout, savoir comment on en sort.
Bien, écoutez, on va bien le voir puisqu'on le vit au quotidien et on est emmerdé au quotidien. Donc,
jeudi, je vais à Montauban, je rigole pas.
Non, oui, non, ça devient problématique. Peut-être le train, Jean-François.
Peut-être.
Allez, je vous propose un deuxième sujet. Parlons d'Erdogan, des Kurdes et de la Syrie. Alors,
un sujet facile.
Complexe. Vous savez que les Kurdes ont été et sont nos alliés dans la guerre qui est menée contre Daesh, les alliés de la France, mais aussi ceux de Moscou et de Washington. Combattants valeureux et déterminés, ils ont fait sur le terrain, au contact de l'ennemi, le boulot que ne voulaient pas faire Russes, Américains et Français, essentiellement d'ailleurs de peur de voir revenir leurs combattants entre quatre planches, ce que n'auraient pas toléré leurs opinions publiques respectives. Alors ils se sont interposés physiquement, ces Kurdes, ils ont payé de leurs morts et de leurs blessés cette victoire contre le terrorisme islamique que s'attribuent peut-être un peu facilement les trois puissances que j'évoquais ci-dessus. Il mérite certainement notre considération et notre soutien, celui que l'on doit à des alliés précieux, celui que l'on s'honore d'apporter à ceux qui nous ont permis de gagner un combat qui va peut-être nous permettre de mieux sécuriser notre territoire et nos concitoyens. Eh bien, ces Kurdes, ils sont bien mal remerciés de leur sacrifice. Les Turcs et la Turquie ont lancé le 19 janvier une offensive d'envergure contre eux, en pénétrant en Syrie en force et en masse, et en violant donc la souveraineté de l'État syrien, ou de ce qu'il en reste, ainsi que de son espace aérien. Bien évidemment, il fallait un prétexte à cette incursion en territoire étranger. Erdogan ne s'est pas embarrassé d'explications élaborées. Ce sont des terroristes, il faut les éliminer, a-t-il dit. Fermez le banc et on y va. En réalité, ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ce potentat se livre à cette manœuvre, puisqu'en mars 2016 déjà, une opération baptisée à l'époque « Bouclier de l'Euphrate », toujours des noms un peu romantiques, avait été lancée avec pour but de créer, entre guillemets, une zone sécurisée de 30 km à l'intérieur de la Syrie. Donc à chaque fois, la motivation est la même, diviser pour mieux régner, et donc éloigner autant que possible les Kurdes syriens des Kurdes turcs, qui sont quand même 12 millions, et qui sont passablement brimés, voire plus par l'inquiétant Erdogan. Rappelons tout de même que la frontière syro-turque s'étend sur 910 km, vous voyez, je suis précis, dont 600 d'entre eux sont sous le contrôle de l'YPG, je ne sais pas comment on dit, qui est lié au PKK, donc le Parti des Travailleurs du Kurdistan, et qui lutte depuis 40 ans contre l'armée turque, donc ce n'est pas un problème tout à fait nouveau. Alors pour mener cette offensive parfaitement illégale au plan du droit international, la Turquie s'adjoint les services de guerriers du front al-Nostra, qui se font aujourd'hui appeler Tahrir al-Sham, et qui ne sont ni plus ni moins qu'une filiale d'Al-Qaïda, comme vous le savez. Alors Claude Angéli l'a souligné en ces termes, et je vais le citer dans son article, un récent article du Canard Enchaîné, je le cite, « Le fait que les militaires turcs aient été accompagnés, entre guillemets, à cette occasion, par les membres de l'armée syrienne libre et par nombre de djihadistes aujourd'hui sans emploi, qualifiés par un officier français de semeurs de merde recyclés, n'a surpris personne à Moscou, à Washington et à Paris, fermez les guillemets. » Et c'est bien là que le bât blesse, puisque on affecte de comprendre la politique d'Erdogan pour amuser la galerie, on a faim de lui conseiller une certaine retenue, mais ça s'arrête là. La Russie l'a laissé bombarder à sa guise la zone, alors qu'elle maîtrise totalement l'espace aérien syrien. Les États-Unis n'ont pas émis d'objection, l'ONU n'a rien dit, ou si peu, et puis M. Macron, finalement assez peu porté sur les droits de l'homme, comme il l'a montré en Chine, à regarder ailleurs. Donc le dictateur turc peut poursuivre sa politique de répression des Kurdes en toute impunité, comme il l'a mené et continue à mener une politique de répression à l'égard de tous ceux qui, supposés ou non, de près ou de loin, pourraient représenter un obstacle à un pouvoir qu'il souhaite absolu. Bon, à part cela, tout va bien dans ce beau pays, dont on se demande s'il en est encore un. La Syrie, un peuple massacré par son dirigeant Bachar el-Assad, dont la traduction devant le tribunal pénal international serait la bienvenue. Des Américains solidement installés dans le nord du pays qui collaborent étroitement avec les Turcs, les Kurdes comprennent qui pourra. Les Russes implantés au sud-est du pays avec bases aériennes et navales, et les Chinois qui arrivent pour eux construire un port en eau profonde. Ils n'oublient pas l'économie, par contre. Bon. Au final, un bel imbroglio dont on voit mal comment il pourra se dénouer un jour. Et le peuple syrien, me direz-vous, eh bien tout le monde s'en moque, comme les Kurdes qui sont aujourd'hui un peu oubliés après avoir été utilisés. Donc je conclurai qu'ainsi va notre monde en ce début de 21e siècle, mais vous avez peut-être une vision différente. Pierre Larouille.
Comme Mignard est spécialiste de ces sujets, je vais simplement faire une toute petite...
Oui, spécialiste de la Russie, nous le savons, mais
transition.
Pas...
Transition. En fait, ce sujet, c'est le triangle des Bermudes. Parce que là, on a évoqué un côté du triangle, mais en réalité, il y a l'Iran aussi, hein. Et les Kurdes sont beaucoup plus massacrés encore en Iran qu'ils ne le sont par les Turcs.
On a limité un peu un côté du triangle, parce que sinon on y est pour 3 heures. Là,
et oui, encore, mais je ne suis, suis pas sûr qu'on puisse le faire. J'ai cru comprendre que les Kurdes étaient sunnites, mais qu'il y avait une partie de Kurdes chiites en Iran. Et il y a surtout le diaspora kurde dans le monde extrêmement importante. Je crois que c'est 40 millions de personnes au total.
Oui. Hein.
Donc, en fait, pourquoi je parle du triangle des Bermudes ? Parce qu'on comprend peut-être mieux qu'en réalité tout le monde se taise, parce qu'il y a là un rapport de force visiblement complexe. C'est que les Kurdes eux-mêmes, et je reprends hein, tout ce qui a été dit, c'est un peu dégueulasse, c'est même très dégueulasse, c'est ce qui se passe, c'est même honteux, mais il est certain aussi que les Kurdes jouent de ce rapport de force dans ce triangle pour essayer de trouver une sortie.
Tout à fait.
Et je crois simplement que chacun hésite effectivement à s'engager, mais c'est très souvent le cas dans cette partie du monde aujourd'hui, parce que les conséquences ne sont pas bilatérales, mais sont beaucoup, beaucoup plus complexes. En fait, déjà, on ne sortira de cette question que si effectivement le problème de Bachar el-Assad et de la Syrie est réglé. J'ose espérer, parce que j'ai eu des pistes, alors que le président Macron, qui a l'habitude d'enjamber très souvent les institutions pour parler directement avec les peuples, je sais qu'il y a en cours une grande discussion autour du plan Khattab en France. C'est un Syrien qui essaie de construire quelque chose qui parte de la reconstruction et du monde économique, et donc du peuple syrien, et ça sera peut-être un moyen, effectivement, de dépasser le cadre strict des relations qui sont sinon très bloquées par les rapports des forces en puissance. Alors, je ne sais pas si ça correspond à l'initiative que Macron entend prendre, puisque je crois qu'il espère en tout cas réunir à Paris une grande conférence sur la Syrie, dans laquelle, justement, la diaspora économique syrienne, qui est très importante, hein, c'est plusieurs centaines de milliards qui, apparemment, sont en jeu dans ce plan, et qui permettrait peut-être de donner une aspiration générale qui trouve une porte de sortie.
Jean-François Mignard.
C'est assez désespérant, effectivement. Enfin, je reviens, alors, après le détour par la Syrie, je reviens à la question qui est la question kurde. Je partage, hélas, l'analyse lucide qui vient d'être faite concernant le fait que chacun qui pèse ayant ses Kurdes, personne n'a intérêt, effectivement, à ce que les Kurdes, d'une façon ou d'une autre, arrivent à émerger comme étant, au-delà d'un peuple, une nation et un État. Voilà. Et moi, je suis pas du tout spécialiste, hein, mais je suis quand même assez pessimiste sur ce qui peut se passer, parce que c'est une, comment dire, c'est vraiment une, c'est quelque chose qui est hélas rien de nouveau, le fait qu'on abandonne en rase campagne des gens qui sont des gens, y compris qui se sont battus pour nous. Je veux dire, c'est...
Ça a déjà arrivé à d'autres.
C'est arrivé à d'autres.
On regarde vers le sud de la Méditerranée, là.
Je pense à ça, je pense à des tas de choses. Je suis très pessimiste, effectivement, sur le fait que, ne serait-ce que par gratitude et par un minimum d'intelligence politique, on puisse, d'une façon ou d'une autre, aider les Kurdes, sachant que la Turquie la Turquie concernant les Kurdes ne fait que ce qu'elle a fait depuis des années. De façon...
Après les Arméniens, les Kurdes ?
Alors, oui. Alors, c'est pas, on n'a pas en face le même État turc. Hein, c'est pas Atatürk, c'est pas les jeunes Turcs. Mais on a une Turquie, par ailleurs, au passage, qu'on a largement satellisée. Alors, on avait eu un débat à une autre époque à l'émission. Moi, je pense qu'effectivement, l'Europe a laissé dériver la Turquie sur des positions qui sont aujourd'hui qu'on est en train de payer, hein, c'est-à-dire que nous n'avons plus aucune capacité de pouvoir entretenir des relations diplomatiques avec la Turquie autre que d'une puissance étrangère, alors qu'on aurait ça aurait pu se jouer autrement. Je ne sais pas si ça aurait été efficace du côté des Kurdes, parce que c'est quand même alors ce que je comment dire, ce que j'observe, comme on dit dans les émissions comme il faut, c'est que ce à quoi on insiste, ce qu'on voit bien, c'est d'une part effectivement la fin quasi complète d'une géopolitique bien, bien calibrée entre l'Est et l'Ouest, le Nord, le Sud, etc., etc. Et que là, on voit apparaître une mosaïque d'enjeux et de tensions, des choses comme ça. Et ce qui est quand même sur l'histoire des Kurdes, on est bien sur la question de la revendication territoriale, culturelle, identitaire et de l'État. Hein, comme on est de plus en plus confronté à ce genre de choses-là. Quant à la Syrie, alors sur le deuxième aspect, j'ai quelques doutes sur la capacité que peut avoir Macron et la France à avoir une fonction qui est une fonction efficace par rapport à ça. Je suis pas sûr que on ne sauce pas du col en imaginant que la France en tant que telle puisse faire quelque chose. La situation, ce qui est en train de se passer au niveau international, moi, je lisais des trucs où j'ai discuté, y compris avec des gens qui sont, eux, pour le coup, spécialistes de ça, renvoie à une question qui est une question du repli, du reflux des États-Unis sur les enjeux qui peuvent y avoir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on voit bien que les États-Unis sont tentés à nouveau par le retour sur leur base, et qu'à terme, ils vont être obligés, certainement, ils vont être amenés à mesurer les effets pervers qu'ils peuvent avoir, c'est-à-dire ça risque de leur coûter plus cher de se remettre Trump aidant sur...
Obama n'avait pas fait mieux.
Ah non, mais là, pour le coup, c'est... Ah, Obama avait largement trahi un certain nombre d'engagements qu'il avait pris. Là, c'est revendiqué, je veux dire. Là, on a un président de la République, enfin, président, pardon, des États-Unis qui en gros explique que il a plus rien à voir. On a l'impression qu'à part Israël, il a plus rien à voir effectivement avec les enjeux qui sont les enjeux géopolitiques, et que comme ça a été évoqué encore une fois dans la brève d'introduction, on voit bien que tout le monde est dans une ça me renvoie à l'approche de Badi sur aujourd'hui l'espèce de recomposition qu'il y a dans les relations qui sont les relations géopolitiques, et avec l'opacité et certainement la difficulté qu'on a à repenser ces interrelations sur une base qui est une base qui a complètement changé en 20 ans.
Ce qui est certain dans la région, c'est que ce qui nous a occupés pendant 30 ans, c'était le conflit israélo-palestinien. Celui-là, il est complètement passé à la trappe aujourd'hui. On n'en parle plus. Les Palestiniens, personne ne s'occupe plus d'eux et personne ne s'en occupera pas plus qu'on ne s'occupe des Kurdes. Et qu'aujourd'hui, les alliances se sont un peu renversées. Et c'est plutôt les sunnites et Israël qui sont en train un peu de travailler ensemble et s'opposer carrément et frontalement aux chiites, notamment au Yémen, dont il faudra peut-être parler un jour. Si tant est qu'on puisse en parler, parce que là, ça...
Quand le monde sera mort, risque d'en parler.
Oui, mais...
Je reviens quand même sur cette histoire de la Syrie. Et je comprends bien que la France ne peut pas revendiquer sur une table diplomatique normale. Mais je reviens sur cette histoire économique, parce que je crois qu'il y a des moments aussi où la paix se fait sur la reconstruction et sur l'adhésion d'un peuple à la reconstruction. Et ceci reste à prouver, mais j'ai la sensation qu'effectivement, il y a là... un regroupement de la diaspora syrienne, de gros moyens financiers, d'accord de beaucoup d'industriels, sur lesquels, finalement, une certaine neutralité, en tout cas une implication un peu moins forte de la France, peut lui donner un rôle de médiateur ou de transporteur de ce sujet, qui effraierait peut-être moins que si c'est demain ou la Russie ou les États-Unis qui portent la reconstruction, parce qu'à ce moment-là, évidemment, le système va exploser tout de suite. Donc... j'espère, et je trouve que les médias en parlent finalement assez peu, ça serait intéressant que le plan Qatar soit un peu mis sur la table pour savoir réellement ce qu'il y a derrière. Il y a beaucoup d'actions qui se mènent déjà au niveau d'abord des réfugiés ici, mais aussi là-bas, notamment sur le plan sanitaire. Est-ce qu'ils seront capables d'aller au-delà? J'ai cru comprendre que c'était en tout cas une volonté qui semblait commencer à s'immiscer, que pour l'instant, c'est Bachar el-Assad qui évidemment, n'y était pas très, très favorable.
Oui, continue d'ailleurs à gazer, j'ai entendu ce matin les informations. Oui. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus, on sait ce qu'il vaut, c'est-à-dire rien et même moins que rien. Passons à un autre sujet, revenons dans notre belle France et parlons de Macron et des fonctionnaires. Donc, on reparle de supprimer des postes de fonctionnaires. Alors ça, c'est récurrent, ça revient régulièrement. On appelle au départ volontaire de certains, ce qui est quand même là, pour le coup, une grande première en France. On parle de les remplacer par des contractuels. Là aussi, on innove. Et ce faisant, on ne voit pas très bien comment tout cela peut s'articuler avec le sacro-saint statut de la fonction publique. Enfin, il n'est pas non plus forcément gravé dans le marbre. Ce faisant, on occulte quand même, semble-t-il, une autre approche qui serait plus pertinente, c'est celle de l'efficacité de l'action publique et des réformes nécessaires dans la gestion des personnels du public. Et l'on voit mal comment cette idée de réduction du nombre des fonctionnaires serait cohérente avec le fait particulièrement avéré que tout le monde dénonce, qu'il en manque un peu partout des fonctionnaires, et en nombre même. Personnel de la fonction publique, personnel policier, on l'a dit. Il faut dire que Sarkozy en avait dégagé 12 000, alors là maintenant il manque un peu quand même. L'hôpital, on ne revient pas sur l'hôpital. Les enseignants, ce sont les trois exemples les plus visibles, mais il y en a d'autres. On a une fonction publique qui est composée d'agents qui sont bien formés, qui sont quand même responsables, qui sont efficaces. Et en matière de nombre de fonctionnaires, la France se situe à peu près au même niveau que les autres grands pays industrialisés, et même si on regarde, derrière les États-Unis. Dès lors, la question se pose de savoir ce que M. Macron cherche en ouvrant ce qui pourrait bien être une boîte de Pandore. Question que je vous pose. Jean-François Mignard ?
Oui, le 120 000 à la fin du quinquennat, c'est l'objectif annoncé, 120 000 fonctionnaires.
C'est à peu près ce qu'a dégagé le Canada, qui maintenant se mord les doigts parce qu'ils sont obligés de les réembaucher, ça merde partout chez eux.
Ouais, mais c'est faire et défaire, c'est toujours travailler.
Oui, c'est ma grand-mère, oui.
Oui, voilà. Il y a une question au passage, alors moi je lisais ça tout à l'heure, là, mais il y a une bonne question au passage, parce que les 120 000 là, qui veulent dégager et qui quitteraient la fonction publique, il y a une question annexe quand même, c'est pour aller où ? C'est-à-dire, je ne suis pas du tout sûr que le secteur dit privé soit aujourd'hui en capacité d'absorber 120 000 personnes comme ça qui sont...
Non, ça se saurait.
Oui, voilà. Quand on voit les dernières statistiques du chômage et tout, donc...
Et je ne vois pas comment on peut les dégager. Ils sont quand même un statut extrêmement protecteur.
Oui, non, mais à ce moment-là, on va leur proposer effectivement d'aller voir ailleurs. Il y a eu des tentatives, d'ailleurs, qui n'ont jamais tellement fonctionné, pour essayer de faire bouger un petit peu. À l'origine, c'était pour donner un peu de fluidité, c'est le terme consacré d'ailleurs pour ce coup-ci aussi, à une fonction publique qui, moi, je suis fonctionnaire à l'origine, n'est pas complètement d'une souplesse.
Je le fus aussi, et donc je peux en témoigner. Il ne faut pas oublier quand même qu'entre 2000 et 2016, il y a eu 6 millions de personnes de plus en France. L'accroissement de la population, c'est 6 millions de personnes. Donc, il faut quand même des gens pour les gérer. On ne peut pas rester avec un niveau de fonctionnaires en dessous de ce qu'il était.
Alors après, à quoi joue effectivement à la question à quoi joue le gouvernement ? Je pense que le gouvernement joue sa logique. Alors je vais être là aussi d'une banalité. Une logique est une logique néolibérale, de toute façon, pour le coup. Parce que ça s'appelle des mesures, c'est des mesures néolibérales. Je veux dire, quand effectivement, on détruit des postes de fonctionnaires, en laissant entendre au passage que certainement que le privé ferait mieux que ce que peuvent faire, effectivement, les collectivités publiques, l'État ou des choses comme ça. J'en arrive à me dire que je pense que la vraie raison, c'est effectivement celle-là. Pas plus, pas moins.
Pierre Larouille.
Oui, mais encore. Premièrement, je sais pas, ça doit être des souvenirs que j'ai. J'étais un peu plus proche des gens qui décidaient des choses. Notre conversation révèle encore une fois qu'une bouteille a été jetée, apparemment assez loin, et que pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans la bouteille. Donc c'est assez curieux parce qu'on a l'impression qu'on alimente tout de suite un débat sur quelque chose qui n'est pas précis, puisque justement, alors est-ce que c'est des retraites, est-ce que c'est d'autres emplois, donc finalement, on ne sait rien. Donc il y a une méthode un peu générale dans ces cas-là. Deuxièmement, j'ai cru comprendre que c'était aussi, contrairement à tout ce qui s'est passé jusqu'alors, des négociations très, très longues. Un an de discussion prévue... quand on veut la méthode Macron, jusqu'à présent, c'était pas celle-là. Donc on peut se demander, premièrement, si dans la stratégie ou dans les choses qui sont annoncées, il n'y a pas des stratégies de temporalité qui seraient un peu masquées. En tout cas, et Mignard a raison, on se demande et on souligne effectivement qu'on a besoin de personnes un peu partout. Néanmoins, on ne peut pas se poser la question, finalement, plutôt que de parler de fonctionnaire, c'est de ce joli terme qui est fonction publique. Je crois que ce qui est dans la tête des gens, c'est peut-être que ce pays, comme beaucoup d'autres, se mette là encore au clair sur ce que les gens entendent par fonction publique aujourd'hui, peut-être même par public tout court, d'ailleurs. Peut-être d'ailleurs que ça va revenir à la même chose, ou peut-être que ça sera très différent. J'ai la sensation qu'il y a une mutation des métiers, une mutation des organisations qui suppose de toute manière des réorganisations, des formations, des déplacements. Et ça, c'est pas dire qu'il faut moins de fonctionnaires. C'est simplement, et le terme est évidemment très désagréable, il y a un problème d'efficience, tout autant qu'un problème d'efficacité humaine.
C'est ce que je disais, mais il faut aller vers l'efficacité. Peut-être des réformes nécessaires pour atteindre cette efficacité sans forcément dégager les gens.
C'est effectivement une question. Peut-être que simplement l'annonce est un moyen d'agiter le bocal. Moi, je travaille beaucoup, je crois que vous le savez, sur les problèmes de vieillissement de la population, sur les problèmes de désertification médicale. et sur les nouveaux modèles économiques qui se mettent en place. Je suis très troublé au fil des mois de voir l'évolution de gens avec qui je parlais il y a 18 mois, 2 ans, et qui étaient sur des positions extrêmement figées, et qui, au fil du temps, en essayant des choses, en voyant ce qui se passe, en sont parfois à me dépasser dans les aspects disruptifs que je semblais proposer à l'époque. Et on s'aperçoit qu'en fait, il y a toute une réorganisation, et d'une certaine manière, ces nouveaux usages font qu'on ne sait pas, en réalité, comment il va falloir structurer l'emploi autour de ça. Alors, vous voyez bien qu'on se pose cette question sur l'emploi de la fonction publique ou des fonctionnaires. Au même instant, vous le savez, c'est très à la mode, on se pose la question tout simplement de l'emploi tout court avec la robotisation et les technologies. Bref, je crois qu'on est confronté à un vrai sujet qui est vraiment de redéfinir les missions régaliennes, sans doute, ce qu'est la fonction et ce qu'est la fonction publique, ce qu'est la mutation de ce monde et comment tout le monde y prend part. Je vais ouvrir une piste. Moi, je pense par exemple que l'économie sociale et solidaire, si elle veut, et elle est grandement utile, prendre toute sa place, aujourd'hui doit affronter, et c'est la première à aller l'affronter, les plateformes. Je crois que l'économie sociale doit créer ses propres plateformes d'intérêt général et de proximité. Sinon, vous verrez, je vous l'ai dit de manière provocante un jour dans une de vos émissions, on en arrivera à ubériser le bénévolat. Donc tout ça est en pleine mutation, donc je ne suis pas en train de dire que ce serait bien de supprimer des emplois dans la fonction publique, je pense simplement qu'il y a une nécessaire remise à plat de ce que le pays veut faire avec cette notion.
Qui est une réflexion nécessaire et une remise à plat certainement, mais est-ce qu'on ne prend pas les choses à l'envers là? Parce qu'on commence déjà par donner des solutions avant d'avoir réfléchi au problème, semble-t-il, en disant... On va dégager des fonctionnaires et puis on prendra des contractuels.
Je crois surtout que moi, ce que je comprends, c'est qu'on ne remplacera pas certains fonctionnaires pour voir comment, aux endroits prioritaires, soit on en réembauche, mais est-ce que c'est des fonctionnaires ou d'autres choses, on verra. C'est-à-dire, je crois que c'est simplement agiter le bocal quelque part pour que tout ça se remette dans un ordre. Alors après, que ça soit la bonne méthode, chacun prend la sienne.
Qu'il y ait un besoin, ça c'est clair. Je sais pas, je m'interroge quand même sur la pertinence de la méthode. Agiter le bocal, c'est bien, mais le bocal, peut-être, il va venir par exploser à force.
C'est pas impossible.
C'est ouais. Pas forcément une bonne chose. Jean-François Mignard.
Oui, je trouve que... Enfin, bon, je suis d'accord sur le fait qu'il y a certainement... Bon, enfin, bon ça vaudra le coup qu'on fasse une réunion sur... une émission, pardon, sur la question de l'économie sociale et solidaire et du virage qu'elle est en train de prendre après le grand show... Globiche que nous a fait le ministre en question sur justement la nouvelle forme de l'économie sociale. Mais pour en revenir à la stratégie politique qui serait effectivement d'annoncer une privatisation ou une logique de plutôt néolibérale concernant les fonctionnaires. C'est quand même plutôt ça qui est dit. Et si ça doit être pour provoquer, pour agiter le bocal, je pense qu'il faut. Enfin, je pense que c'est pas ça la politique dont on a besoin, y compris si on souhaite que les gens soient partie prenante eux-mêmes de l'évolution dans laquelle ils vont s'inscrire. Voilà. De ce point de vue-là, je trouve que la méthode, elle est pas très nouvelle politique pour le coup, et que c'est vraiment les ficelles qui sont les ficelles. Voilà. C'est
95, hein, Juppé qui fait le choix finalement de laisser s'affronter le public et le privé en pensant que, d'une certaine manière, pas le privé d'ailleurs, mais que les citoyens vont soutenir le privé, puis finalement ça a fini par une grève générale qui l'a emporté. Donc effectivement, cette chose-là existe, mais j'ai quand même la sensation que ça correspond assez bien aux méthodes de Macron depuis le début.
Oui, c'est bien ce qui m'inquiète.
Oui, c'est pas forcément quelque chose qui soit de nature à nous rassurer. Bien, avant-dernière séquence, le « ça va mieux », toujours une séquence extrêmement compliquée. Voilà, moi, j'ai toujours un peu de mal à voir des choses qui vont mieux, mais je dois être fatigué, c'est mon caractère pessimiste peut-être. Et pourtant...
C'est la dépression française.
Oui, c'est la dépression française.
Moi, j'en ai un.
Oui, eh bien, alors allez-y, Jean-François.
Il est très local, il est un peu dérisoire, il est un peu sarcastique. « Ça va mieux, la direction de Monoprix vient d'empêcher la direction de Monoprix Toulouse d'interdire l'entrée des SDF dans ses magasins. » Je trouve que ça va mieux oui. Pour les SDF, ça va mieux. Je pense que ça va mieux pour nous en termes de dignité sociale. Je pense que ça va mieux pour Monoprix. Je pense que ça va mieux s'il y a des gens qui ont pris cette décision-là, que c'est été rendu public et que les gens sont revenus en arrière là-dessus. Voilà.
Oui, oui.
On se contente de peu.
Ben oui, on n'a pas trop le choix. Pierre Larouille.
Si je reste sarcastique comme l'ami Mignard, je dirais que moi, je suis très content sur le plan sémantique, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il fait froid et que c'est l'hiver. Et je trouve ça plutôt rassurant que, pour une fois, les termes semblent aller de...
Sinon, il y a plus de saison.
Semblent aller de pair. Plus sérieusement, en dehors de l'attentat dont on vient d'être victime...
Oui, on a entendu un grand bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Nous verrons après. Nous sommes tous là et entiers. C'est l'essentiel.
Moi, je ne sais pas si ça va mieux, parce qu'on verra si ça se confirme, mais j'aime beaucoup le débat qui s'ouvre sur la nouvelle forme de comptabilité, où on aurait une vision un peu plus ouverte des entreprises, de l'objet social des entreprises. Je trouve que c'est là un moyen, peut-être un biais, mais d'aborder des sujets vraiment centraux sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui un modèle économique et intégrer effectivement beaucoup d'aspects sociaux qui sont trop laissés de côté.
Bien, et bien, moi, comme m'a soufflé Jean-François Mignard, effectivement, je ne peux que me réjouir que Macron n'ait pas explosé en faisant son discours et que les Corses n'aient rien fait sauter. Donc, pour le moment. Enfin, j'ai aussi, j'avais oublié que ça faisait 20 ans que le préfet Erignac avait été tué. Il me semble que c'est quand même hier. Et je peux se poser quand même des questions sur ces gens qui sont allés exécuter par derrière. De 3 balles dans la tête, un fonctionnaire qui était un homme certainement de qualité. En principe, ils le sont souvent et je trouve qu'il faut une particulière lâcheté. Il n'y avait pas véritablement d'enjeu. Ce type était seul dans la rue avec sa femme, même pas protégé. Enfin, je pense qu'il faut être le dernier des salauds pour faire ça. Mais bon, voilà, je ne sais pas si ça va mieux, mais je tenais à le dire. Et donc, séquence culturelle qui est par laquelle nous clôturerons notre émission. Qui veut commencer ? Jean-François, non ? Pierre Larouille ?
Comme je n'ai pas la confirmation d'une chose qui me paraissait très bien, qui doit être annoncée demain, je préfère attendre parce qu'on ne sait jamais. Donc, je veux dire de manière plus proche que je souhaite bon vent au festival de Luchon, le festival audiovisuel de Luchon, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui est très sympathique, qui est une belle initiative de Louis Ferré et de sa collectivité.
Et qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y entend au Festival de Luchon ?
Énormément de courts-métrages, en particulier télévisuels, et je crois avec des compétitions, enfin je crois que le spectre, le périmètre s'élargit un petit peu, mais c'est assez original, c'est créatif, et surtout c'est quelque chose qui est pérenne et qui prend de l'ampleur, donc je trouve que c'est une bonne initiative culturelle dans la région.
Alors, longue vie au Festival de Luchon, Jean-François Mignard.
Eh bien, dans cette ambiance morose, deux choses pour rire un peu. La parution d'un album BD qui s'appelle Cosmo Bacchus de Jean-Benoît Meybeck aux éditions Eidola qui parle de la viticulture. Et si vous avez envie de rire, si vous avez le vin, c'est instructif en plus. Il faut... Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Et puis, un film qui est à l'heure actuelle sur les écrans à Toulouse, qui est un film fait par l'équipe de Striptease qui s'appelle « Ni juge ni soumis ». C'est une vision de la justice qui est une vision de la justice un peu roborative qui fait passer un très très bon moment. C'est de l'humour de qualité.
Bien, c'est bien, parce que la justice ne fait pas toujours passer que de bons moments.
C'est pour ça.
Et pour ma part, un livre de Rutger Bregman, Utopie réaliste au seuil, vous avez peut-être entendu parler, un livre optimiste, lui par contre, à rebours du pessimisme ambiant. Donc je le lis avec plaisir, un auteur enthousiaste qui s'appuie sur les travaux d'Esther Duflo, de Thomas Piketty, que vous connaissez bien, de David Graeber, et qui tente de nous convaincre qu'il faut revenir à l'utopie et qui ouvre des perspectives, alors notamment réduction du temps de travail, on revient sur le revenu universel, la lutte contre la pauvreté, la réduction des inégalités, la taxation des flux financiers, l'ouverture de frontières et d'autres choses. Donc voilà, une petite lecture. Au pays de la bonne vie où presque tout le monde est riche, en sécurité, en bonne santé, où il ne manque qu'une chose, une raison de sortir du lit le matin, parce qu'après tout, au paradis, il n'y a pas grand-chose à améliorer. En 89, le philosophe américain Francis Fukuyama remarquait déjà qu'à notre époque, la vie se réduit, on le cite, à des calculs économiques, la résolution sans fin de problèmes techniques, de préoccupations environnementales et la satisfaction des exigences de consommateurs avertis. Notre vision n'est plus ambitieuse, etc., etc. Et finalement, il nous dit le progrès, c'est la réalisation des utopies, mais des utopies réalistes.
Alors, on le reproche souvent de ne pas avoir d'idées. Je vois qu'au travers du congrès du Parti Socialiste, et ça vient de Haute-Garonne, donc c'est très bien, le Parti Socialiste parle des nouveaux possibles comme étant un des axes directeurs de la refondation du Parti Socialiste. Donc, vous voyez que
donc,
tout le monde se rejoint.
Effectivement, nous pouvons dire, sans crainte de nous tromper, qu'il va neiger fort ce soir et les jours suivants.
Si le jour reparaît de même matin.
Voilà. Merci, messieurs. C'était Ça va mieux, l'émission de Jacques Lavergne, avec à la réalisation manette Jean-Louis Arzac. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook Occitanie Première, ainsi que sur le site internet de Célestine. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle édition de Ça va mieux. Belle journée, belle soirée à toutes et à tous.